Donc Marc 6, chapitre 6, et à partir du verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des cruches, des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme, rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Voilà, on va s'arrêter ici. Alors, comme je disais, l'action commence immédiatement. À peine Jésus a posé le pied sur le bord du lac, il est reconnu. Les gens savent qui il est. Et savent qu'ils ont besoin de lui. Et en fait, cette foule, qui est la première à accueillir Jésus, cette foule reconnaît Jésus. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils accourent avec des malades, qui savent qu'il a le pouvoir de les guérir. Ils ont foi en ce pouvoir, et donc ils lui apportent des malades. Et c'est vraiment les malades là en sont au point où il suffit qu'ils touchent le bord du vêtement de Jésus pour être guéris. Il n'y a plus besoin, enfin, il n'y a pas de mise en scène particulière. Les gens savent en fait maintenant que Jésus a le pouvoir, son autorité établie, et il fait ses miracles un peu, pas de manière industrielle, quoi, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent avec les malades. Tout le monde comprend exactement ce qui se passe. Jésus a le pouvoir de guérir les malades. Et il suffit de toucher le bord de son vêtement pour être guéri. Donc, pour Jésus, c'est un véritable bain de foule, on va dire, comme nos politiciens aiment parfois faire, sauf qu'eux, ils ne guérissent pas les malades. Et Jésus est entouré de monde, il est entouré d'une foule, entouré de gens malades, de gens de tout horizon, de toutes sortes de vie, de mauvaise vie, de statut social, d'origine, et il les guérit. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est vraiment la totale. Il n'y a pas de demi-guérison, de choses qui ne marchent pas. Non, c'est vraiment le miracle jusqu'au bout, comme Jésus sait le faire. Donc voilà un groupe de personnes qui reconnaît qu'ils ont un besoin, ils reconnaissent leur maladie, ils reconnaissent leur soif de Jésus, leur besoin de l'entendre et d'être au bénéfice de son pouvoir. Et ils savent que Jésus est le seul qui peut y remédier. Ils ne vont pas voir quelqu'un d'autre. Ils savent que c'est le moment ou jamais. Jésus est là, c'est maintenant. On ne va pas attendre, on ne va pas chercher quelqu'un d'autre. Non, c'est Jésus et Jésus seul qui peut les sauver, qui peut répondre à leurs besoins à ce moment-là. Alors, bon, ça reste des guérisons physiques ici. Ces personnes-là, même si elles ont guéri, un jour sont de nouveau mortes ou retombées malades. Peut-être que, malgré tout, dans cette démarche, cette foule n'avait pas encore compris la dimension spirituelle de l'action de Jésus. Mais déjà, ils avaient compris, ou au moins par ces événements et par l'action qu'ils font, ils ont compris qu'ils ont bien un besoin. Les pharisiens, eux, c'est une autre histoire. Alors, la deuxième catégorie de personnes, c'est les pharisiens et quelques scribes, à partir du chapitre 7, verset 1. On voit même qu'ils sont venus de Jérusalem. Alors, eux aussi viennent de loin. Ils cherchent Jésus, mais ils ne le cherchent pas pour les mêmes raisons. En fait, depuis le début de notre étude de Marc, on a vu qu'il y a eu une escalade dans l'antagonisme entre Jésus et les autorités religieuses, les scribes et les pharisiens, en l'occurrence. Et là, pour la première fois, on voit qu'il y en a qui sont venus de Jérusalem, parce que le centre de l'autorité religieuse du judaïsme, c'était Jérusalem, alors que là, il est en Galilée, ce qui est une région un peu annexe, un peu, les Galiléens sont un peu méprisés par les Judéens. Mais là, Jésus commence à être connu, à être tellement connu que les autorités religieuse de Jérusalem envoie des gens pour investiguer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, on parlait de la mort de Jean-Baptiste, et après la mort de Jean-Baptiste, les gens à Jérusalem se posaient la question, ils disaient « Qui est Jésus ?» Et effectivement, ça, pendant tout l'évangile de Marc, on pose la question au texte « Qui est Jésus ?» Certains disaient, chapitre 6, verset 15, c'est Élie, d'autres disaient c'est un prophète, d'autres disaient c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Voilà, donc il y a des chefs religieux qui viennent de Jérusalem pour investiguer, et non seulement pour investiguer, mais pour chercher aussi la bagarre, en réalité. Ils ne sont pas venus pour être gentils avec Jésus. On voit depuis plusieurs chapitres qu'ils le cherchent. Il cherche pour voir s'il va guérir telle personne le sabbat. Il le cherche pour voir s'il va faire un faux pas, s'il va dire quelque chose qui est non conforme. À un moment, il l'accuse de blasphème. À un moment, il l'accuse de violer le sabbat. À un moment, il l'accuse d'autre chose. Voilà. Toujours, il cherche la petite bête. Et ici, ça va être particulier. Il cherche à accuser Jésus sur un point en particulier. C'est les traditions rituel de purification rituelle, en particulier des mains. Alors, les pharisiens viennent voir Jésus. La première chose qu'ils voient, c'est pas il fait des miracles, c'est pas il parle avec autorité, comme la foule disait souvent jusqu'ici. Non, la première chose qu'ils voient, c'est que les disciples prennent le repas avec des mains impures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a toute une explication, versets 3 et 4, de ce que c'est que prendre, se purifier les mains. Et en fait, Marc écrit son texte à destination de non-juifs, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. C'est vrai que dans l'évangile de Matthieu, par exemple, dans le même texte, on n'a pas cette explication, probablement parce que les gens pour qui Matthieu écrivait l'évangile étaient plutôt des juifs et se connaissaient. Alors que Marc, lui, il l'écrit pour un public plus large qui ne connaît pas forcément, bah, nous non plus, ça tombe bien, qui ne connaît pas forcément ces rituels. Alors, pour expliquer un petit peu, déjà, en termes de traduction, donc, au verset 4, au verset 3 et 4, on voit que les Juifs se lavent les mains conformément à une tradition. Et ça consiste en la peur d'avoir touché à l'extérieur de sa maison, d'avoir touché quelqu'un qui est rituellement impur. Et en fait, il y avait une mention de quelque chose de cet ordre-là dans la loi de Moïse, mais eux l'ont extrapolé et en ont fait une règle stricte, comme quoi à chaque fois qu'on rentre chez soi, enfin surtout à chaque fois qu'on va manger un repas qui contient du pain, on doit se laver les mains de manière très précise. Alors vraiment, c'est pas juste ouvrir le robinet, se laver les mains et mettre du savon. Hein. Ils avaient une règle, il fallait mettre une certaine quantité d'eau sur chaque main successivement. Quand une main était lavée, il ne fallait pas que l'autre main qui n'est pas encore lavée recontamine la main lavée. Donc pour ça, ils avaient des coupes de lavage de main avec deux anses. Une pour la première main, enfin une. Voilà, on verse avec la première main sur la première anse. Ensuite, la deuxième main qui est pure peut prendre la deuxième anse sans se recontaminer en touchant la première anse qui a de l'eau contaminée, peut laver sa main. Et si c'est bien fait dans les règles, alors c'est bon, on a les mains pures. Donc il existe, hein, même encore de nos jours, ces coupes à deux anses spécifiques pour le lavage des mains rituel. Alors, ça n'a rien à voir avec les microbes. Déjà, les microbes, ils ne savaient pas que ça existait à l'époque. Ils n'avaient aucune idée que c'était pour des raisons d'hygiène. C'était uniquement pour des raisons rituelles. Et donc, ça peut nous faire penser aux règles Covid, hein, clairement. Voilà, le petit gel hydroalcoolique à l'entrée des magasins ou de l'église. Non, mais c'est deux choses différentes. Hein. Il n'y avait pas d'idée d'hygiène à l'époque. C'était simplement pour la pureté rituelle. Et donc, c'est pas non plus une idée. Il y a certaines traductions, faire attention au verset 4, qui traduisent la place publique comme le marché, ce qui est correct. Hein. C'est agora en grec. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont allés au marché, qu'ils ont acheté des aliments et qu'ils doivent laver les aliments avant de les manger. Non, c'est vraiment ces deux choses différentes. C'est quand ils viennent de l'extérieur, ils se lavent les mains parce que eux risquent d'être impurs en ayant touché quelqu'un qui peut-être dans la foule était impur. Alors, ils ont bien raison là. Jésus, il vient de faire un bain de foule. Il vient de toucher des gens qui sont venus exprès pour le toucher. Qui sont venus pour le toucher parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils sont impurs. Donc c'est évident que Jésus est impur. Lui et ses disciples et toute la foule. C'est le principe même de ce rassemblement. Et en fait, la question que je vais vous poser là, c'est si on regarde le Seigneur Jésus, des gens malades, lépreux, viennent le toucher. Est-ce que quand un lépreux touche Jésus, c'est Jésus qui devient lépreux ou c'est le lépreux qui devient pur? Et c'est ça le contraste ici. C'est ça le miracle, en fait, dans la personne de Jésus. Il bouscule complètement la réalité de la pureté contre l'impureté. Lui, il est pur et il a le pouvoir de rendre les choses pures autour de lui. Et il a ce pouvoir alors que, en fait, l'eau sur les mains n'a pas ce pouvoir. Et les pharisiens, eux, sont dans une démarche différente de la foule. Ils conçoivent qu'il y a l'impureté, ils savent que ça existe, mais ils ne pensent pas que c'est eux qui sont impurs. Ils pensent, eux, être purs et que l'extérieur peut les contaminer. Et donc, qu'à force de travail, de purification par eux-mêmes, ils peuvent se re-rendre purs. La foule a une démarche complètement contraire. Ils savent que eux sont impurs, que eux sont malades. et que jamais par leur travail, jamais par leurs ablutions, leurs bains, ils ne pourront guérir et se rendre purs. Ils ont besoin que le Seigneur Jésus les purifie. Et voilà la différence réelle entre ces deux catégories de personnes. Ça me fait penser à une amie qui est un peu psychorigide sur les microbes. Et elle a dans son appartement une zone de 1 mètre carré autour de sa porte d'entrée. Et tout ce qui vient de dehors doit rester là. Et après, on sort les pieds, on les met dans des chaussons de l'autre côté du mètre carré. Je ne sais même plus si c'est matérialisé au sol, mais voilà, il y a vraiment l'impur et le pur. Bon, ça c'est un peu comme les pharisiens font ici. Ils ne le font pas pour des raisons hygiéniques, mais ils pensent qu'à l'intérieur, ils sont purs. Et en fait, ça soulève la question de est-ce que finalement, la question qu'on pose parfois sur notre vision de l'homme, est-ce que l'homme est pur et simplement corrompu par la société, ou est-ce que c'est à l'intérieur de l'homme qu'il y a des choses impures, du péché, et des choses qui doivent être réglées, et qui, rassemblées, forcément, du coup, font des sociétés imparfaites, comme on le voit aujourd'hui. Et en fait, Jésus va profiter de ce débat, cette question que les pharisiens lui posent, alors vraiment, il ne le pose pas de manière gentille, hein, il le pose en accusant. Leur but, c'est pas que de débattre, c'est aussi de faire du mal à Jésus et à son ministère. Mais Jésus en profite pour répondre spécifiquement sur ce point-là. Et donc, à partir du verset 6, on va avoir un enseignement de Jésus, où il va expliquer justement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il va l'expliquer avec des métaphores anatomiques, il va l'expliquer en pointant du doigt l'hypocrisie des pharisiens. Et en fait, d'emblée, quand il leur répond, ça, il répond de manière très carrée et virulente, face aux pharisiens. Les pharisiens gardaient les formes quand même, en tout cas jusqu'à présent. Jésus leur répond de manière tout à fait transparente. Il leur dit « hypocrite ». Voilà, c'est son premier mot. « Hypocrite ». Et puis il cite Ésaïe dans une prophétie d'Ésaïe, donc c'est Ésaïe 29-13, mais c'est à peu près le texte qui est là dans les versets 6 et 7. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est les versets que Mick a lus au début du culte. Et là, Jésus va faire la distinction entre les lèvres, ou la bouche, et le cœur. Et en fait, l'hypocrisie, c'est ça. L'hypocrisie, c'est quand il n'y a pas une adéquation entre notre cœur et ce qui sort de notre bouche. La quantité d'hypocrisie qu'il y a en nous, c'est la distance entre notre cœur et notre bouche, si vous voulez. Et donc, Jésus pointe du doigt l'hypocrisie des pharisiens, et il donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'impureté rituelle ou le lavage des mains. Il donne un exemple où il montre que la religion organisée, on va dire, des pharisiens, et leur tradition éloigne de Dieu et éloigne des commandements de Dieu. Et en fait, c'est assumé de la part des pharisiens. Les pharisiens ont placé leur tradition au-dessus de la loi de Dieu. On le retrouve dans les écrits de l'époque. Alors en fait, cette tradition au temps de Jésus, elle est plutôt orale. Elle a été écrite dans les siècles qui ont suivi par les Juifs qui ont continué à écrire beaucoup et à expliquer comment ils appliquaient leur tradition. Du temps de Jésus, elle est plutôt orale, mais elle est très connue de la part des autorités juives, et notamment pour cette histoire de lavage de mains, pour l'histoire du Corban, qu'on va voir dans un instant. Et en fait, ils appellent ça la tradition des anciens. C'est comme ça que Marc l'écrit d'ailleurs au verset 3, conformément à la tradition des anciens. Jésus, lui, quand il en parle, il n'appelle pas ça la tradition des anciens. Il appelle ça la tradition des hommes. Donc, tout de suite, ça baisse l'autorité de cette tradition. Et Jésus va montrer que cette tradition va à l'encontre des lois de Dieu. Alors, l'exemple du corban qu'il donne, là, c'est Moïse, d'un côté, représente la loi de Dieu. Moïse a donné des lois qui sont écrites, dans notamment les 10 commandements, donc vraiment le socle de la loi de Dieu. Le 5e commandement, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et les pharisiens, eux, arrivent à se dédouaner de ce commandement, ou à dédouaner leurs ouailles de ce commandement, avec une petite entourloupe pseudo-religieuse, parce qu'ils disent, donc faut bien comprendre, hein, à l'époque, il n'y a pas de retraite. Donc quand une personne arrive à un certain âge, elle ne peut plus travailler, elle est entièrement dépendante de ses enfants, de sa famille. Donc pas de retraite, les enfants subviennent aux besoins de leurs parents, c'est comme ça que la société a marché pendant des siècles, des milliers d'années. Mais, voilà, si le jeune n'a pas trop envie d'aider ses parents, il suffit qu'il déclare que son bien est consacré à Dieu. Et ça l'oblige même pas à le donner tout de suite à Dieu. Il pouvait continuer à en jouir, continuer à faire fructifier son bien, mais par contre, comme c'était consacré à Dieu, il ne pouvait plus le donner à ses parents. Et ce mécanisme de consacrer à Dieu quelque chose dans ce contexte-là, c'était ça qui s'appelait le corban. Et les pharisiens allaient jusqu'à dire, maintenant, comme c'est un serment devant Dieu, il est impossible de revenir dessus. Donc même si tes parents sont en train de mourir de faim, on a vu le sel, là, hein, voilà, tes parents sont en train de mourir de faim, si tu as déclaré corban sur tes possessions, tu ne peux plus les aider. Et ça, c'est en contradiction directe avec ce que Moïse avait enseigné au peuple, ce que Dieu voulait pour la société, et qu'il y ait l'entraide entre les générations, qu'il y ait une entente et une coopération entre les hommes en général, mais en particulier dans la famille, entre les parents et les enfants. Alors, il n'y a pas de réponse des pharisiens, je ne sais pas du tout comment ils arrivaient à résoudre cette chose dans leur tête, mais l'idée générale, c'est ça, et sur les lavages des mains, c'est un peu la même idée aussi. Il y a l'autorité de la loi, et puis les pharisiens avaient ajouté par-dessus, avaient remplacé cette autorité par une autorité qu'ils pensaient être plus grande, celle de leur tradition orale et de leurs règles. Mais vous imaginez, la semaine dernière, on a eu la multiplication des pains. 5000 hommes dans le désert, enfin, pas dans le désert, mais dans la campagne. Imaginez s'il avait fallu tous leur laver les mains avec une coupe à 2 onces, une par personne. C'est invraisemblable. Ils voient les disciples qui ont mangé sans se laver les mains, mais s'ils étaient là à la multiplication des pains, ils seraient devenus fous, les parisiens. Ils ont tous mangé du pain, ils ont tous partagé le pain dans des corbeilles, un pique-nique à 5000 personnes, c'est la folie. Et en fait, pourtant, c'était ce que Dieu voulait pour le peuple à ce moment-là. Dieu voulait montrer sa puissance et partager du pain, subvenir aux besoins de la foule. Mais ça ne serait pas rentré dans la tête des pharisiens. Alors, ça c'est la réponse aux pharisiens. Et puis Jésus conclut avec une phrase un peu cryptique, le verset 15. Il dit « Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Et cette phrase est appelée au verset 17 par les disciples, c'est appelée une parabole. Donc c'est alors là, c'est pas une parabole qui soit une histoire complète, c'est simplement une phrase dont le sens est un peu difficile à comprendre. Il faut décortiquer et voir ce que ça veut dire. Et puis, c'est entre deux versets, 14 et 16, où Jésus dit bien « Écoutez-moi ». Verset 14, il dit « Écoutez-moi tous et comprenez ». Verset 16, il dit « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Donc ça, c'est vraiment le point central de l'enseignement de Jésus dans cet épisode. Et on va essayer de comprendre de quoi il en retourne. Alors, je mentionne juste que le verset 16 n'est pas toujours présent dans tous les manuscrits, mais je le trouve rigolo parce qu'on est dans un chapitre assez anatomique. On commence à parler du cœur, des lèvres, de l'estomac. Bon, il y a même les oreilles, en fait. À chaque organe, un peu son rôle. Les oreilles sont là pour entendre. Et sauf, il y a un organe dont on parle ici qui est un peu plus complexe, c'est la bouche. Parce que la bouche a plusieurs fonctions. Et en l'occurrence, elle a la fonction de faire entrer des choses pour manger et de parler pour faire sortir des choses. Alors, les disciples n'ont pas tout à fait saisi le sens de ce verset 15. Et donc, quand ils sont seuls avec Jésus, ils lui demandent d'expliquer. Et c'est souvent le cas, en fait, quand Jésus raconte des paraboles, après, il l'explique à ses disciples. Et puis, souvent, il leur dit, ouais, vous auriez pu comprendre. Ouais, c'est le cas ici. Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Donc, il va faire séparément les deux directions. Pour la partie qui entre, rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. Donc, pour ça, j'ai pris un petit tube. Donc, imaginez que c'est un tube digestif. En vrai, avec l'intestin, et c'est beaucoup plus long, hein, mais j'ai vu un jour un présentateur qui expliquait un peu la digestion et il disait, il y avait un tube comme ça, il disait, vous voyez, ce qui entre dans le tube, bon, ça ressort de l'autre côté. Et en fait, quand quelque chose est dans le tube, c'est pas forcément dans notre corps. Il faut que ce soit absorbé. Donc, c'est le principe du tube digestif, c'est qu'il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent de l'autre côté, et simplement, certains nutriments vont être absorbés. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment ce qui entre là. Ce qui compte pour le bilan énergétique humain, c'est ce qui, à l'intérieur, va être absorbé par l'estomac et l'intestin pour vraiment entrer dans notre corps. Bon, donc ça, c'est la partie... on a la bouche de ce côté-là, de l'autre côté, on a la sortie, quoi. Et c'est... D'ailleurs, c'est un peu difficile à traduire ce que Jésus dit au verset 19. Il y a deux manières de comprendre la chose, de comprendre ce qui sort. Il y a une manière de traduire qui dit ce qui sort s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. En gros, une fois que c'est sorti, ça part et c'est purifié. Il y a une autre manière de comprendre ce verset où la citation de Jésus s'arrête à « ça s'en va dans les lieux secrets », la citation de Jésus s'arrête, et puis après, ce serait Marc qui dit « il purifie tous les aliments », en gros, pour dire « Jésus déclarait par cette parole-là, il déclarait que tous les aliments sont purs ». Bon, il y a des implications dans les deux manières de comprendre ce verset, en particulier si on repense que Marc et était coaché par Pierre pour écrire son évangile, on se souvient que c'est Pierre qui avait vécu l'expérience de la nappe qui descend du ciel dans Actes. Donc je vous renvoie à Actes pour ça, on ne va pas en parler beaucoup plus, mais où Dieu avait fait comprendre à Pierre que la classification des aliments purs et impurs n'était pas quelque chose qui allait être déterminant dans la suite de son ministère ou pour le partage de l'évangile, quoi. Que c'était vraiment... il faisait tomber le mur entre les païens et les juifs, et il permettait même aux païens qui n'ont pas les rites et les classifications d'aliments purs, etc., de participer quand même à l'évangile et d'être au bénéfice du salut. Bon, donc ça, c'était pour Pierre. Mais tout ça pour dire que dans ce tube-là, la bouche, elle est de ce côté-là. Donc, ça entre, il y a l'estomac, et nulle part, ça n'a d'influence sur notre esprit, notre salut, notre vie avec Dieu, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver les mains, ou qu'il faut manger n'importe quoi, ou... Mais pas... Voilà, si vous manger bio, c'est très bien, ou voilà. Chacun fait comme il veut, mais c'est pas ça qui sera déterminant sur votre salut, quoi. Ça n'a rien à voir. Par contre, à partir du verset 21, il y a un deuxième tube. Il y a le tube inverse, enfin, disons, il y a un tube où la bouche est à la sortie. C'est le tube où il y a le cœur. Et ce qui sort de ce tube montre ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui sort de ce tube, il en liste une sacrée liste, montre vraiment que ce qui est mauvais dans l'homme vient de l'intérieur. Et Dieu, enfin, Jésus répond à la question qu'on a posée au début, est-ce que c'est l'homme qui est pur et souillé par l'extérieur, par la société, l'homme est corrompu par la société? Non, non, c'est pas ça. La manière dont Jésus présente la chose, c'est que c'est l'homme qui est corrompu et qui a besoin, au contraire, d'être sauvé par un acte particulier de salut. Donc, à partir de là, on parle du cœur, et à de nombreux endroits dans la Bible, on insiste sur le cœur et sur l'attention qu'on doit y porter, plus que sur ce qu'on mange. Et je voudrais simplement partager avec vous une ou deux pensées en plus. Premièrement, ce proverbe 4:23, qui illustre bien l'importance du cœur. Donc dans Proverbe 4:23, c'est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et donc là, on voit que le tube est dans ce sens-là. C'est le cœur qui est la source, et la bouche, c'est la sortie. Et ce qui sort de la bouche, ça peut être la vie, ça peut être de très belles choses, pourvu que le cœur les ait produites. Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est vrai que c'est aussi à nous de reconnaître que notre cœur est rempli de choses aussi mauvaises, que nous sommes impurs, pas que au sens de la purification rituelle des mains, mais que nous avons du péché dans le cœur, et que nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes, simplement en mettant que des bons aliments dans notre estomac. Mais que nous devons, comme tous ces malades du début du chapitre, que nous devons chercher Christ et le toucher. Et c'est lui qui nous rendra purs. Ce n'est pas nous qui souillerons Christ, c'est lui qui nous rendra purs. Et puis une fois qu'on a entamé cette démarche, une fois que le Christ nous purifie, une fois que notre cœur devient semblable à ce que Jésus veut pour nous, alors on peut quand même se poser aussi la question, comment est-ce qu'on nourrit ce deuxième tube de bonnes choses? Parce que finalement, ça reste vrai, il y a quand même une petite idée pas si fausse que ça dans ce que les pharisiens pensaient, qu'on peut aussi avoir des choses qui nous influencent mal, et qui font du mal à notre cœur, qui remplissent notre cœur de mauvaises choses. Donc, dans le tube spirituel, on a le cœur au milieu, la bouche à la sortie, mais qu'est-ce qui rentre? Et là, je vous citerai Philippiens 4:8. C'est l'apôtre Paul qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà comment nourrir le tube spirituel. Alors, ce n'est pas par la bouche, c'est plutôt par les yeux, par les oreilles, par tout ce qui nous entoure et qui entre et qui trouve son chemin jusqu'à notre cœur. Alors, une fois de plus, c'est pas définitif. Si une chose mauvaise passe devant nos yeux, elle peut entrer et sortir. pourvu qu'elle ne soit pas absorbée. Il ne faut pas que notre cœur s'en nourrisse, absorbe ces nutriments-là. Mais, bon, une bonne manière de ne pas être bombardé, exposé à des choses mauvaises, c'est quand même de faire gaffe aussi à ce qui rentre. Donc, j'en ai encore. Voilà, comment est-ce qu'on nourrit notre cœur? Comment est-ce qu'on protège notre cœur? Comment est-ce qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose? Ben, on a aussi cette responsabilité et cette démarche. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'évangile de Marc, Jésus finit même par dire « Mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, mais arrache-le !» Et il ne prenait pas la violence et la mutilation, mais c'était vraiment pour dire, je ne sais pas si on ira d'ailleurs jusqu'à là, c'est dans Marc 9, mais bon, je ne vais pas plus loin, mais si c'est de là qu'entrent les choses, c'est très important de fermer les yeux, de ne pas se nourrir de choses mauvaises qui peuvent avoir une influence sur notre cœur. Alors, je vais conclure avec mes deux tubes. On a deux tubes. La confusion des pharisiens, c'était entre... Le seul point commun entre ces deux tubes, c'est la bouche, en fait, parce que la bouche est l'entrée de l'un des tubes et la sortie de l'autre. Du coup, ça a causé une grande confusion dans leur esprit, mais ils n'ont pas compris que c'est des tubes vraiment séparés. Rien à voir. Si on met quelque chose dans l'un, ça ressort par ce tube-là, et si on met dans l'autre, ça ressort par l'autre, ça ne communique pas. Maintenant, toute cette image nous donne quand même l'analyse complète de la Bible sur l'analyse lucide de la nature humaine. La nature humaine est déchue, mauvaise. Dans Romains 3, on dit « il n'y a pas de juste, aucun, pas même un seul ». Et c'est grâce à ce constat que de l'intérieur, on est impur, qu'on peut se tourner vers Christ. C'est grâce à ce constat qu'on peut aller le chercher et, pourvu que ce soit avec foi, que lui, oui, peut répondre à ce besoin, que lui peut purifier l'homme pécheur. Et que ce n'est pas l'homme pécheur qui va souiller Christ, mais que c'est Christ qui va purifier l'homme pécheur. C'est ça le miracle de la croix. C'est ça ce que Jésus a fait en mourant à la croix. Même s'il a porté tous les péchés de l'humanité, avec sa puissance, sa mort et sa résurrection, il les a effacés et aujourd'hui, il est pur, il est parfait et il a réussi à effacer cette impureté. Et puis voilà, une fois qu'on est purifié, déclaré juste par le sang de Christ, faisons quand même attention à notre cœur, à comment nous le nourrissons, ce qui entre et ce qui sort. En informatique, on a un principe, on sait que certains programmes ne sont pas forcément robustes à toutes les choses bizarres qu'on peut leur donner en entrée. Donc on peut donner des données, des chiffres, des images, des valeurs en entrée d'un programme, il est censé en faire quelque chose et sortir un résultat. Eh bien, ce principe dit que si on lui met quelque chose, si on lui met n'importe quoi à l'entrée, ben, elle va sortir n'importe quoi à la sortie. On appelle ça garbage in, garbage out. Donc, si on met de la poubelle à l'entrée du tube, ce qui sort, c'est de la poubelle aussi. Alors, appliquez ce principe dans vos vies, dans vos tubes. Et puis, que le Seigneur vous bénisse et protège vos cœurs plus que toute autre chose.